En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose, dans cette retransmission de séance de l'Académie des sciences, de vous intéresser aux systèmes embarqués. Les systèmes embarqués sont des systèmes électroniques et informatiques autonomes que vous retrouvez dans les fours micro-ondes, dans les consoles de jeux vidéo, mais aussi dans les fusées, les avions, les missiles. Utilisés dans 95% des composants électroniques, les systèmes embarqués présentent cependant encore des failles qui rendent les opérations bancaires sur Internet pas totalement sécurisées à 100%. Il en va de même pour le vote électronique. Les systèmes embarqués restent donc un défi scientifique pour l'informatique. Toute la complexité de ce procédé vous est ici expliquée par Joseph Sifakis, directeur de recherche au CNRS. Joseph Sifakis occupe la chaire industrielle Schneider-INRIA au laboratoire Verimag. Il a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2001. Et puis ajoutons qu'il est également lauréat avec Edmund Clark et Allen Emerson du prix Turing 2007 et le premier français à recevoir cette distinction. Écoutons Joseph Sifakis sur les nouveaux défis des systèmes embarqués. Il s'exprimait au cours d'une séance de l'Académie des sciences en février 2009.
J'aimerais commencer en parlant de l'évolution de l'informatique, qui est une discipline très jeune, dont les fondations ont été posées en 1936 par Alan Turing et Kurt Gödel. Les premiers ordinateurs sont apparus en 1945 avec des applications de défense. Les années 70 sont marquées par l'apparition des grands mainframes, applications commerciales, l'apparition des circuits intégrés, la fameuse loi de Moore qui prédit que tous les 18 mois, la capacité de calcul des puces est doublée. Et donc, on nous promet encore 10 années de loi de Moore, ce qui est très intéressant. Dans les années 80, la convergence entre l'informatique et les télécoms, ce qu'on appelle les STIC. Au début des années 90, il y a une grande révolution, c'est le web, hein, qui donne accès aux connaissances à plein de gens. Et en parallèle, cette décennie aussi a démarré une autre révolution beaucoup plus silencieuse et moins remarquée, qui est la révolution des systèmes embarqués, dont je vais parler. Mais je dois dire tout de suite que plus de 95% des composants électroniques, des ordinateurs, des puces sont embarqués aujourd'hui. Et donc c'est un phénomène extraordinaire. Et pour l'avenir, on prévoit, bon, il y a d'autres étapes qui me paraissent importantes, c'est l'utilisation par exemple des systèmes multicœurs, c'est-à-dire des puces où on aura quelques centaines de processeurs qu'il va falloir pouvoir programmer efficacement. Et finalement, autre fait très important, c'est la convergence entre Internet et les technologies du web et les technologies embarquées, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et donc, pour conclure, moi, je dirais que l'informatique est une discipline jeune dont le périmètre change, les problèmes que nous sommes amenés à aborder change et on est poussé beaucoup par l'évolution spectaculaire des technologies de composants et des applications. Voilà un plan de mon exposé. Je vais parler de systèmes embarqués, de conception de systèmes embarqués ou de conception tout court, de vérification pour vérifier qu'un système est correct. Et je vais rapidement donner quelques défis de recherche et je vais finir par une discussion. Voilà le plan de mon exposé. Qu'est-ce que c'est les systèmes embarqués? C'est des composants électroniques qui intègrent du logiciel et du matériel, donc qui très souvent sont conçus spécifiquement, et qui fournissent des services qui sont souvent critiques. Et là, vous avez quelques exemples d'applications, d'utilisation de composants électroniques dans des avions, dans des fusées, dans des caméras. Bon, vous pouvez imaginer, il y a des composants partout. Et ce diagramme que je garde, qui date un peu, mais c'est un vieux diagramme donné par Philips. Bon, c'était vers 95. Il donnait les prévisions en ce qui concerne l'explosion des composants embarqués. Donc, vous voyez que le phénomène donc a démarré au début des années 90, et ensuite donc il y a cette explosion, on dépasse la population de la Terre. Et puis, vous voyez le nombre des ordinateurs qui sont dans des PC, par exemple, qui stagnent. Et actuellement, je pense qu'il y a plus de, je ne sais pas, il doit y avoir quelques centaines de milliards hein, d'ordinateurs qui sont éparpillés partout et qui travaillent pour nous offrir des services. Donc, qu'est-ce qui change en ce qui concerne, quels sont les changements qu'apportent les systèmes embarqués par rapport aux technologies traditionnelles des ordinateurs, c'est-à-dire par rapport à votre PC, par rapport à votre machine personnelle. Il y a un ensemble d'exigences techniques, comme par exemple la réactivité, répondre dans des temps prédéterminés, c'est l'exigence qu'on a d'un contrôleur de vol, par exemple. L'autonomie, c'est-à-dire que c'est des machines qui sont cachées, on ne peut pas se permettre de faire du de redémarrer. Il y a aussi des exigences d'autonomie en énergie, des exigences en robustesse, c'est-à-dire en résistance à des attaques, à des pannes de logiciels, à des erreurs de logiciels. Aussi, bon, cela est une exigence un peu technique, mais qui est importante, c'est qu'on puisse les modifier, les reconfigurer. Ça arrive très souvent, par exemple, pour votre téléphone, qu'on reconfigure les logiciels sans que vous vous en aperceviez, parce que c'est l'opérateur qui les fait, ou d'extensions évolutives, comme on dit. Et tout ça, il faut bien sûr pouvoir le faire en respectant des contraintes économiques d'optimalité. Lorsque Nokia conçoit un nouveau téléphone mobile, l'objectif, ce n'est pas de faire le meilleur téléphone du monde, c'est de faire un téléphone qui correspond à un optimum. Donc, pour résumer, quel est le défi technologique autour des systèmes embarqués? C'est de prendre tous ces critères conjointement, ensemble, en compte, et donc fournir des produits, des systèmes de fonctionnalité et de qualité garantie à des coûts acceptables. Et ça, c'est un défi technologique pour lequel on n'a pas les bases, malheureusement, scientifiques pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui, d'une façon très schématique, en matière d'ingénierie système? On sait concevoir des systèmes critiques, comme par exemple un contrôleur de vol, d'une complexité qui est d'une complexité, disons, plutôt faible ou moyenne par rapport aux grands systèmes qu'on conçoit. Bon, c'est des systèmes qui sont extrêmement fiables, et tant mieux. Et on a aussi d'autres technologies pour construire des systèmes beaucoup plus complexes, qu'on appelle en anglais « best effort », donc « meilleur effort ». Pas forcément de garantie de service, on cherche à utiliser au mieux les ressources disponibles du système, parce qu'on cherche à obtenir un optimum économique. Pour les années qui viennent, quelle est la vision? Tout d'abord, il faut avoir des systèmes critiques à des prix moins chers. Par exemple, pouvoir mettre les technologies d'Airbus pour schématiser, enfin ce ne sera pas les mêmes, dans les voitures, c'est-à-dire avoir le niveau de sécurité pour les conducteurs qu'on a dans l'avionique. Il y a beaucoup d'applications en santé qui n'avancent pas parce que soit on ne sait pas les certifier correctement, garantir leur qualité, soit parce que ça coûterait trop cher. Et puis, bon, le deuxième défi qui me paraît encore beaucoup, beaucoup plus important, c'est de pouvoir intégrer les systèmes qui nous entourent pour qu'ils coopèrent harmonieusement pour le plus grand bien de tout le monde. Donc, ce que j'appelle intégrer des systèmes de systèmes hétérogènes. Alors, schématiquement, quel est le problème de cette intégration? Il faut pouvoir intégrer des systèmes qui sont très robustes, très fiables, avec des systèmes qui sont nettement moins fiables. Et le problème, c'est comment faire pour que le système le moins fiable n'infecte pas le système qui est fiable. Par exemple, si vous voulez faire des transactions en utilisant votre téléphone portable ou le web, bon, il faut peut-être faire attention, il faut prendre toutes les précautions pour être sûr que votre identité n'est pas usurpée par quelqu'un d'autre. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a des systèmes qu'on ne sait pas construire aujourd'hui. Un exemple qui est resté fameux dans l'histoire, c'est ce que les Américains appellent trafic aérien de nouvelle génération. C'est un projet qui a commencé en 1984. L'idée était extrêmement simple et séduisante. Comment faire pour décongestionner le système donc de trafic aérien des États-Unis, donner de l'autonomie aux pilotes des avions une autonomie relative parce qu'actuellement, les routes des avions sont préallouées statiquement. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y a des retards, tout ça, on ne gère pas de façon optimale l'espace aérien. C'est très clair. Donc l'idée était de donner une autonomie relative aux pilotes, aidée aussi par des équipements au sol, etc., pour rendre le système plus flexible. C'était un grand fiasco, ça a été arrêté par le Sénat. Et vous voyez, donc, ça c'est un projet dont l'étude a coûté 6 milliards de dollars et ça s'est arrêté. Je pense qu'on n'est pas prêt à recommencer à faire un tel système. On n'a pas les compétences techniques. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de compétences techniques. Donc maintenant, je vais parler un peu de conception de système qui me paraît une question centrale, ce qui concerne en tout cas les systèmes embarqués. Je pense que les systèmes embarqués mettent les informaticiens un peu face à la physique. Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est des systèmes qui interagissent avec le monde physique. Donc lorsqu'on conçoit par exemple un contrôleur de vol, on commence par les équations dynamiques de l'avion. On fait de la physique initialement pour concevoir certains systèmes, notamment critiques. Mais disons la physique, qui est une discipline bien établie, je parle ici de la physique classique, évidemment tout malentendu, a les bases théoriques pour construire, par exemple, des ponts. On pose des équations et on est sûr, il y a une très grande probabilité que le pont tienne pendant des siècles, voilà, comme c'est le cas de ce pont-là. Par contre, en informatique, on n'a pas encore les bases théoriques pour garantir, disons, la constructivité, la prédictibilité des grands systèmes et... Donc qu'est-ce que j'appelle grand système en informatique? C'est des systèmes qui sont très risqués et qui, comme par exemple, concevoir un microprocesseur, un nouveau microprocesseur, une plateforme de télécommunication, une plateforme web, c'est une entreprise extrêmement risquée. Ça peut mobiliser par exemple un microprocesseur, même quelques milliers d'ingénieurs, pour faire uniquement ce qu'on appelle le design. Il y a des difficultés multiples. Bon, j'en parlerai tout au long de mon exposé, mais disons, il y a des problèmes de complexité. Il y a des projets aussi qui échouent parce qu'on ne comprend pas bien les exigences en ce qui concerne le projet, parce que les exigences sont décrites en langue naturelle. Vous avez des documents épais. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'on fait les systèmes complexes en se basant sur le savoir-faire empirique des équipes. Là, donc, l'expérience des équipes compte beaucoup. C'est un peu comme les cathédrales au Moyen-Âge. Et donc, les conséquences, c'est que ces gros projets échouent très, très fréquemment. Bon, ça, c'est des chiffres que j'avais vus il y a un peu de temps, mais je pense que, disons, il est raisonnable de penser qu'un grand pourcentage de ces grands projets donc échouent, à peu près 40%, 30%. C'est des chiffres du ministère de Commerce des États-Unis. Voilà, donc, ce qu'il faut dire aussi au sujet de la conception de système, de notre capacité de construire des systèmes complexes de qualité garantie, c'est qu'il y a actuellement une distance qui, à mon avis, accroît entre nos capacités technologiques à traiter l'information, transmettre l'information, et notre savoir-faire en ingénierie système. Et bon, c'est un peu inquiétant. Il faut espérer qu'un jour, le progrès technologique va s'arrêter pour pouvoir un peu respirer, parce que il faut dire qu'on a fait énormément de progrès depuis que l'informatique s'annire. Ce n'est pas faute d'avoir fait des progrès, mais l'avancement de la technologie est tellement spectaculaire qu'on n'y peut rien. Et là, récemment, on m'a envoyé un texte, je ne sais pas, peut-être d'autres collègues informaticiens l'ont reçu. C'était donc un texte de Christopher Strachey, qui est un des pionniers de l'informatique. Il est le premier titulaire de la chaire de programmation à Oxford, donc qui constatait avec beaucoup de regrets la distance entre théorie et pratique. Il a regretté, j'ai pas mis tous les textes parce que j'avais pas de place, mais il disait le but de mon groupe est vraiment de s'attacher à réduire cette distance. Et je pense que cette distance, elle est quand même tout aussi grande, pas faute d'avoir bien travaillé en tant que communauté scientifique. Donc, de quel système on parle? Bon, en fait, il y a deux types de systèmes. Il y a les systèmes qu'on appelle systèmes transformationnels, comme par exemple un programme, il prend une donnée N, calcul factoriel N. Bon, c'est des systèmes simples, j'estime quand même que l'informatique a fait suffisamment de progrès pour pouvoir construire des systèmes transformationnels. Et c'est un acquis, je pense. Par contre, là où le problème se pose, c'est dans la conception des systèmes qu'on appelle réactifs, qui sont des systèmes donc qui interagissent de façon continue avec un environnement. Ici, bon, je donne l'exemple d'un système simple qui est un thermostat, qui mesure la température et donc contrôle en conséquence un appareil de chauffage. Donc le but étant de maintenir la température entre 18 et 20 degrés. Dans tous les cas, donc, pour décrire les systèmes, comprendre les systèmes, il faut commencer par les exigences. Les exigences, par exemple, pour ce programme, on dit que pour tout entier n, il donne factoriel n et il se termine. Voilà, c'est une bonne propriété. Pour le thermostat, on dira que la température, par exemple, entre 18 et 22 degrés, voilà, une exigence. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour les systèmes réactifs, on a un grand spectre d'exigences qu'on peut classer en deux catégories. Les exigences fonctionnelles, qui caractérisent les services assurés donc vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs, et les exigences extra-fonctionnelles. Juste pour comprendre ça, si on considère des produits comme par exemple des stylos, fonctionnel, c'est pouvoir écrire, et extra-fonctionnel, c'est toutes les performances qu'on a, la qualité d'écriture, etc. Alors, pour les systèmes, je vous donne des exemples. Donc, fonctionnel, c'est que le programme calcule factoriel n. Voilà, typiquement, lorsqu'un train passe par un passage à niveau, la barrière est en bas, etc., c'est du fonctionnel. Et vous pouvez voir ce que c'est les exigences extra-fonctionnelles, qui sont très, très importantes pour les systèmes embarqués, parce que les exigences extra-fonctionnelles ont à voir avec la gestion des ressources. Et c'est très important, ça. Donc, c'est la performance. Vous voyez quelques exemples de propriétés relatives à la performance. C'est la sécurité, par exemple, la résistance à des attaques pour un protocole cryptographique. C'est la résistance aux pannes, par exemple, pour un contrôleur de vol. Voilà, donc vous avez cette classification des propriétés qui est importante. Et je dirais tout de suite que, bon, ça c'est des classes de propriétés maintenant qu'on comprend assez bien, et celles-là, moins bien. Alors, qu'est-ce que c'est le processus donc de conception d'un système? Bon, une vision ultra simplifiée, bien sûr, de ce processus. L'idée, c'est que je pars des exigences, je veux construire un système, c'est le cahier des charges, donc c'est tous les desiderata sur le comportement du système, et les ingénieurs, donc, doivent passer par deux étapes importantes. Une étape, c'est d'obtenir un programme. J'appelle programme ici pour simplifier un modèle exécutable du système. C'est-à-dire, on passe du monde des propriétés, des propositions, vers un modèle qui est exécutable, vers une machine. Et la deuxième étape, c'est l'étape d'implantation, où à partir de ce programme, je vais dire, voilà, je veux prendre ce matériel-là et je vais implanter. Donc, vous pouvez, par exemple, décider que vous avez déjà une plateforme matérielle donnée où vous concevez en même temps le logiciel, le matériel, tout est possible. Voilà donc, idéalement, c'est une chaîne qui va des exigences vers donc quelque chose qui est le système concret, qui est composé de logiciels et de matériel. Et donc, lorsque vous faites ceci, ce qui est important, évidemment, c'est que le système que vous obtenez soit correct par rapport aux exigences. Donc, tout d'abord, le programme. Le programme donc est quelque chose d'immatériel. Il faut qu'il satisfasse les exigences fonctionnelles et il faut que le système satisfasse les exigences extra-fonctionnelles. Et bien sûr, on suppose que cette transformation-là, qu'on peut faire parfois en utilisant des outils, préserve aussi les exigences fonctionnelles. Voilà, donc quand est-ce que je dirais que mon système est correct? S'il satisfait des exigences? Les exigences, bon, je vais vous dire comment je les formalise. D'habitude, on peut les formaliser comme des formules, des propositions d'une logique, et les programmes et le système sont des modèles. Donc voilà, sans tarder, je vais vous parler de tout ça. Mais d'abord, je vais ouvrir une parenthèse pour introduire la prochaine partie de mon exposé en parlant de correction. Comment aujourd'hui on arrive à construire des systèmes qui sont plus ou moins corrects? Donc, soit parce que j'ai déjà des algorithmes, des architectures, des schémas, des recettes pour résoudre un problème. Donc, il ne faut pas s'en priver, parce que là, c'est des théorèmes qui j'ai des théorèmes qui prouvent, donc ça, c'est de la correction qui est gratuite, et donc c'est très bien de l'utiliser. Mais lorsque donc je veux faire un raisonnement sur la correction des systèmes plus complexes, d'habitude, les ingénieurs construisent des prototypes physiques, ils les testent, ils passent beaucoup de temps à les tester, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire les tester, et donc une alternative, c'est de ne pas avoir les prototypes physiques, mais d'avoir des prototypes virtuels, c'est-à-dire des logiciels qui décrivent leur comportement. Et là encore, il y a deux voies possibles. Ou bien, bon, vous construisez des modèles un peu n'importe comment, et voilà, c'est ce que font beaucoup d'ingénieurs. Ou bien, vous cherchez à être rigoureux, c'est-à-dire avoir des modèles qui représentent fidèlement ce que fait votre système. Et là, je parlerai de vérification formelle, et c'est la seule approche qui permette vraiment une vérification exhaustive de comportement, c'est-à-dire toutes les autres ne le permettent pas. Voilà, donc je vais avancer pour vous parler un peu de vérification, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant une quinzaine, une vingtaine d'années de ma vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vérifier? J'ai un modèle qui est un modèle mathématique du système ou du programme que je veux vérifier. J'ai les exigences aussi qui sont formulées de façon mathématique. La méthode de vérification permet donc de décider si le modèle satisfait les exigences. Et en général, les réponses que donnent les outils, c'est oui ou non, satisfait ou pas satisfait. Et parce qu'il y a des problèmes de complexité ou de non-décidabilité, bon, parfois, ils disent « je ne sais pas ». Et ce n'est pas une surprise. Donc, quelles sont les exigences en ce qui concerne le modèle? Le modèle, il doit être fidèle, c'est-à-dire, si je vérifie une propriété sur le modèle, elle est vérifiée sur les systèmes, et pour les systèmes complexes, il faut pouvoir le générer automatiquement. Si je construis des modèles à la main, je pense que je n'ai aucune chance, je vais me tromper très fréquemment. Pour les exigences, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction, sens logique du terme, et qu'elle soit complète. C'est une exigence assez forte, parce que ça veut dire que j'oublie rien de ce qui est essentiel. Et finalement, donc pour ce qui concerne la méthode de vérification, je dois dire que lorsque les modèles ont un nombre infini d'états, toutes les propriétés non triviales ne sont pas décidables, ça veut dire qu'il n'y a pas d'algorithme qui permette de décider la validité de ces propriétés. Et aussi, je dirais que lorsque le modèle a un nombre fini d'états, il y a des problèmes de complexité. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Disons, qu'est-ce que c'est un modèle? Alors, un modèle, est ce qu'il représente, c'est la sémantique d'un système, que ce soit logiciel, matériel, ou logiciel, matériel mixte. Là, par exemple, vous avez un modèle, alors c'est une relation entre états. Donc ici, les états, c'est quoi? C'est l'évaluation des variables du système. Donc de l'état x égale 0, je vais à l'état x égale 1 en incrémentant, etc. Vous voyez l'opération reset. Je pense que c'est quelque chose... c'est des objets faciles à comprendre. Donc là, je donne un modèle partiel du thermostat. Pourquoi partiel? Parce que là, la variable θ, par exemple, si elle est définie dans les réels, on a une infinité d'états. Même, donc, c'est un espace d'état dense. Vous pouvez imaginer donc comment on peut compléter ce modèle. Et donc, un modèle est exécuté par l'ensemble des séquences d'exécution, c'est-à-dire je pars d'un état et puis je considère des chemins dans le graphe, c'est les traces d'un programme, d'un système, ce que j'appelle une séquence d'exécution. Alors, comment je peux exprimer les exigences? Bon, je vais utiliser une logique très simple ici, à titre d'exemple, pour parler de la formalisation des exigences. Bon, c'est des logiques qu'on a appelées logiques temporelles, et qui sont des logiques classiques, avec des opérateurs modaux, c'est des logiques modales. Vous avez trois modalités ici qui sont importantes. Possible, F, donc F étant une formule, inévitable, F, toujours F, et je vais vous dire quelle est la signification de possible, inévitable et toujours, qui sont, disons, les primitives de base pour exprimer les propriétés des systèmes. Je dirais qu'un état S satisfait possible F s'il existe une séquence à partir de cet état, et il existe un état S' dans cette séquence qui satisfait F. Inévitable, là je change le quantificateur, c'est pour chaque séquence il existe un état, et toujours ça veut dire que pour chaque séquence, chaque état de cette séquence, je satisfais F. Donc ça, ça correspond aussi à la notion intuitive qu'on a du temps. C'est-à-dire possible, ça veut dire il existe un futur dans mon système dont un instant satisfait F. Inévitable veut dire que quelle que soit l'évolution de mon système, il existe un état qui satisfait F, et toujours ça veut dire quelle que soit la séquence, quels que soient ces états, voilà. Donc avec ces primitives, ça paraît élémentaire, vous pouvez, c'est un langage assez puissant pour décrire des propriétés. Je prends ici un exemple, j'ai un système avec donc un état S qui est l'état noir, et voilà quelques formules qui sont vraies pour S. Donc il est possible d'arriver à un état vert, il est inévitable d'arriver à des états bleus. Pourquoi il est inévitable? Parce que, quel que soit le chemin que je prenne ici, je passerai par des états bleus. Et toujours noir ou bleu ou vert, voilà comment on peut décrire des propriétés. Et voici quelques exemples. Par exemple, pour mon thermostat, je dirais que toujours la température entre 18 et 22 degrés, ou si la température est inférieure à 18, ce qui peut arriver pour une raison quelconque, il est inévitable qu'elle devienne plus grande à 18. Par exemple, pour un ascenseur, je dirais qu'il est toujours vrai que la porte est fermée lorsqu'il bouge, ou si je fais une requête pour un étage, alors il est inévitable d'avoir la cabine à cet étage. Cela est une propriété très importante lorsqu'on gère des ressources comme des mémoires, par exemple dans les systèmes. On veut qu'on ne puisse pas écrire simultanément deux valeurs différentes sur une même mémoire. Aussi, des propriétés très importantes sont des propriétés d'absence de blocage et des propriétés d'absence de famine. Ici, donc, cette propriété d'absence de blocage dit qu'il est toujours possible d'exécuter A. A étant une tâche ou une action. Bon, il faut dire qu'une situation de blocage, c'est la situation où on n'a pas suffisamment de ressources pour permettre l'exécution de toutes les actions du système. Et une situation de famine, qui peut arriver aussi dans les systèmes, c'est la situation où on a peut-être suffisamment de ressources, mais on n'est pas équitable par rapport à toutes les tâches qui utilisent des ressources. Je ne sais pas si tout ça, ça vous parle, mais disons, je pense qu'une fois qu'on a compris la signification de formule, ça va très bien, c'est non ambigu. Et je pense que les logiques temporelles, c'était un grand pas pour comprendre les propriétés des systèmes. Malheureusement, bon, il y a encore quelques problèmes à résoudre. Une difficulté que je vois lorsqu'on s'exprime en utilisant des logiques en général pour exprimer les exigences, c'est le caractère conjonctif des spécifications. C'est-à-dire, la personne qui écrit les formules ne sait pas si je donne une formule F1, F2, F3, mon système se trouve dans l'intersection de ces formules. Donc, on a une certaine abstraction, une certaine aisance dans l'expression des propriétés, mais c'est quelque chose qui se paye parce qu'il y a un risque de non-cohérence. Et aussi, une autre question, c'est la complétude des spécifications. Et je dois dire que récemment, il y a des industriels qui ont travaillé dans le cadre d'un consortium, c'était IBM, Intel, etc., pour faire un langage pour l'expression des exigences pour puces. Et je pense que l'expérience n'était pas très concluante pour ces raisons-là, entre autres, et on s'oriente maintenant vers d'autres styles de description. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Aussi, je dois dire pour conclure en ce qui concerne les exigences que il y a des exigences extra-fonctionnelles qu'on ne sait pas décrire, et c'est très grave. Par exemple, il y a des propriétés liées à la sécurité des systèmes. On discute encore sur comment formuler des propriétés de confidentialité. On ne sait pas spécifier un système de vote électronique. Ça peut paraître bizarre, mais il y a énormément de débats là-dessus. Et donc, si on ne sait pas donner des exigences correctes, il ne faut pas exiger aussi qu'on construise des systèmes. Voilà, c'est la première chose à faire. Le deuxième volet, donc, pour la vérification, le deuxième ingrédient, c'est pouvoir construire des modèles qui sont fidèles. Et là, je dois dire, je vais passer très rapidement, c'est transparent, je dois dire que, pour simplifier, pour le matériel, Je pense qu'on a, c'est relativement facile, si on part à un certain niveau de description, de construire des modèles. Pour tout ce qui est logiciel, donc on part de programme ici, pour construire un modèle, il faut des outils assez sophistiqués. Pourquoi ? Parce que la sémantique des langages de programmation a quelques trous, donc il faut les combler lorsqu'on construit des outils. Et donc après, une fois que j'ai le modèle, si j'ai des variables non bornées, il faut faire des abstractions. Aujourd'hui, je pense que la meilleure technologie pour extraire des modèles à partir des programmes, c'est Microsoft qui l'a. Hein, et les outils les plus performants, c'est des outils qui permettent de prendre en entrée des programmes qui font plusieurs millions de lignes de code et de les analyser. Finalement, je dois dire que notre savoir-faire en modélisation des systèmes mixtes, logiciels matériels, est très pauvre. Tous les systèmes donc, qui sont composés de logiciels et de matériels sont validés d'une façon expérimentale sur des... En tout cas, sont testés, ne sont pas vérifiés. Et la raison pour laquelle on ne sait pas faire, c'est que même si on comprend ce que fait le logiciel, on comprend parfaitement ce que fait le matériel, on ne comprend pas très bien ce que c'est l'interaction entre le logiciel et le matériel, je ne dirais pas plus là-dessus. Très rapidement, sur les méthodes de vérification. Je pense qu'il y a deux approches pour vérifier les systèmes, ce qu'on appelle... une approche qui est très générale, qui est l'approche déductive, qui utilise des règles d'inférence, des règles de raisonnement, c'est-à-dire la preuve d'un système, c'est comme une preuve mathématique. J'ai des règles et j'applique ces règles en raisonnant sur la structure du programme. Bon, les techniques sont tout à fait classiques, bien maîtrisées, bien comprises. Et là, évidemment, bon, c'est des méthodes qui sont très générales, mais, disons, à cause du problème de l'indécidabilité, c'est des méthodes qui sont interactives. L'efficacité dépend quand même des capacités de l'utilisateur. Et il y a des cadres, il y a des outils pour soutenir ça, entre autres donc l'outil Coq, défini et développé par notre collègue Gérard Riette. L'autre approche étant l'approche par vérification algorithmique. Ici, on est moins ambitieux que pour la vérification déductive. On cherche à obtenir un modèle qui est fini et on analyse ce modèle fini. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur cette méthode. Je vais essayer de vous l'expliquer, de vous décrire le principe. Donc, j'ai une propriété qui est décrite par une formule F et je veux calculer l'ensemble des états qui satisfont F. Et en fait, ce qui reste, donc les formules atomiques, ça représente des ensembles d'états, par exemple, comme ici, c'est une contrainte sur l'état du thermostat. Comment je définis donc la signification de possible, inévitable et toujours ? C'est des plus petits points fixes de fonctions qui sont monotones, donc qui préservent un ordre dans des treillis. Hein. Et donc, ces points fixes, je peux les calculer itérativement. Donc, dans ces fonctions, ce qui intervient, c'est cette fonction prêt. Et prêt est une fonction qui est définie à partir du modèle. Donc, le principe est très simple. J'ai un modèle, j'extrais la fonction prêt. Et après, j'ai des... Donc, pour calculer la signification de possible inévitable et toujours, j'itère. Et évidemment, si le système est fini, j'arriverai à calculer cette solution. Et un modèle satisfait une formule si tous ces états satisfont la formule. Donc, je ne dirai pas plus là-dessus. Et cette méthode, je pense, a été et peut être complétée utilement par une autre qui a été développée en France, qui est l'interprétation abstraite. Quelle est l'idée ? D'habitude, on veut prouver qu'un état satisfait d'un système ou un ensemble d'états d'un système satisfont une formule F. Et ceci peut se ramener, en utilisant certains résultats théoriques, au fait que l'état d'un système abstrait satisfait une formule, bon, la même formule transformée un peu. Et là, donc, je veux parler du travail de Patrick et Radu et Diacuso, ils ont introduit un cadre pour calculer des abstractions, c'est-à-dire pour passer d'un système avec état concret vers des états abstraits. Je ne veux pas donner des détails ici, je pense que c'est un cadre qui est très élégant qui permet donc de lier le treillis des propriétés concrètes, donc d'un système qui peut avoir une infinité d'états, avec le treillis des propriétés abstraites, donc un treillis fini sur lequel je peux faire le calcul. Et les deux treillis sont liés par une paire de fonctions qui s'appelle connexion de Galois, qui satisfont ces propriétés. Peut-être vous comprenez quelles sont les propriétés induites, disons, sur les structures ici. Mais le fait est qu'au lieu de calculer un point fixe d'une fonction f, je calcule le point fixe d'une meilleure approximation. Donc, ce paire alpha-gamma permet de calculer la meilleure approximation possible de f. Voilà, donc j'ai terminé sur la vérification et maintenant je vais présenter un peu ma vision au-delà de la vérification, c'est-à-dire parce que la vérification connaît des difficultés que vous pouvez imaginer à cause de la complexité et donc présenter un peu une vision un peu plus générale. Donc je disais que les systèmes embarqués amènent l'informatique face au monde physique. Donc qu'est-ce que c'est un système embarqué ? C'est un système où s'exécutent des logiciels, on a des algorithmes, des protocoles, enfin tout le savoir-faire informatique. Lorsque donc je développe ceci, je dois prendre en compte des contraintes sur les ressources. C'est-à-dire comment programmer ici pour optimiser la mémoire, pour optimiser par exemple la puissance électrique. Comment donc prendre en compte les contraintes de l'environnement, typiquement des échéances, d'autres contraintes sur les débits, des exigences sur la robustesse de mon système. Donc pour pouvoir faire ça correctement, il ne suffit pas de comprendre l'informatique, il faut comprendre aussi comment marchent tous ces dispositifs, le matériel. Et donc aussi pour bien faire son travail, il faut faire le lien entre la programmation et ceci. Donc en gros, pour pouvoir concevoir des systèmes embarqués, il faut intégrer tout ça. Et mon point de vue, c'est qu'il faut revisiter tous les paradigmes de base de l'informatique et les enrichir avec des paradigmes qui viennent du contrôle ou du génie électrique. Et donc, là, il y a plusieurs problèmes. Un problème, c'est que les systèmes physiques sont définis sur des modèles continus et l'informatique travaille avec des modèles discrets. Donc déjà, comment combiner les deux, c'est un problème. C'est une question qui a été relativement bien traitée, je pense, au cours des 10 dernières années ou plus. Un autre problème qui est posé est que les modèles qu'on utilise en ingénierie et systèmes physiques sont très différents des modèles informatiques. Par exemple, en génie électrique, vous utilisez des modèles qui sont des modèles fonctionnels, des réseaux avec donc des fonctions. Ces fonctions donc travaillent en parallèle. Et ici, vous avez des liens qui sont flots de données, c'est-à-dire à partir du moment où des données sont disponibles, je fais un calcul, je produis un résultat. Par contre, le modèle de base d'informatique est très différent, c'est-à-dire que vous exécutez des instructions séquentiellement, vous pouvez appeler, donc ça c'est un sous-programme qui peut appeler un autre, mais le flow est un flow de contrôle, et ici vous avez un flow de données, il y a des différences, et juste pour vous rendre ceci un peu plus concret, je considère ici un exemple d'un outil qu'utilisent couramment des ingénieurs, informaticiens ou non, lorsqu'ils conçoivent des systèmes. C'est un outil américain qui s'appelle MATLAB Simulink. Ce que vous voyez ici, c'est un diagramme de blocs, donc ça c'est des fonctions caractérisées par leur fonction de transfert, et n'importe quel ingénieur comprend donc comment tout ça marche, il y a des boucles de contrôle, etc. À partir de ceci, vous pouvez écrire des équadifs, et donc il y a des outils qui peuvent générer aussi du code, hein, un contrôleur qui fait un certain travail, qui est spécifié ici. Si je passe maintenant au monde informatique, vous avez un autre outil qui utilise les mêmes ingénieurs, où ici on raisonne séquentiellement, donc ça c'est un extrait d'un automate de contrôle, vous attendez un état et vous passez d'un état à l'autre, donc vous imaginez des calculs purement séquentiels. C'est deux mondes qui sont complètement différents, et moi personnellement, bon, c'est un problème qui m'intéresse, je ne sais pas encore comment les mettre ensemble. Voilà. Deuxième problème, c'est comment donc faire face à l'hétérogénéité des composants. L'idée d'utiliser des composants est commune dans toutes les disciplines. Ça donne des avantages, de nombreux avantages, parce que vous réutilisez des connaissances, un savoir-faire. Le problème, c'est qu'en informatique, comment construire des composants complexes, on ne sait pas. Donc le problème, c'est de construire un composant C qui satisfait une exigence F, qui est une formule ici, à partir d'un ensemble de composants atomiques, en utilisant des opérateurs que j'appelle des opérateurs glu. C'est un peu ma terminologie, je travaille sur cette question. Et bon, c'est un problème qui est très très difficile. Donc comment construire des systèmes qui satisfont des propriétés données? Mais déjà, il faut avoir un cadre pour parler de la glu. Et disons, en informatique, on n'a pas encore un cadre adéquat, à mon avis. C'est-à-dire, nous avons des cadres qui utilisent des glues qui sont des opérations très simples, et on aimerait avoir des glues, par exemple, qui sont des bus, des glues qui sont des protocoles, etc., et on ne sait pas faire ça. Juste pour vous donner un exemple de ce que fait la glue, donc si j'ai un émetteur ici qui est un automate très simple qui fait send, 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 et un récepteur qui fait receive, receive, receive. Voilà, la glue, ça va consister donc à contraindre les exécutions et à imposer certains liens entre les occurrences de send et de receive. On veut les synchroniser. Donc ici, je vais écrire une contrainte sur le nombre. Donc dièse S, c'est le nombre de send, et dièse R, le nombre de receive. Donc une contrainte que je peux donner, c'est par exemple que le nombre de send est strictement égal au nombre de receive, ce qui veut dire que ces deux roues-là, send et receive, vont bouger simultanément. Ça, c'est le synchronisme parfait. Et vous comprenez que c'est une exigence très, très forte. Ou ma contrainte peut être vraie, c'est-à-dire je pose aucune, j'ai aucune exigence. Auquel cas, donc, les deux roues vont tourner complètement de façon asynchrone. Et puis, donc, je peux avoir des contraintes de ce type qui vont dire que le décalage entre le send et receive est contenu entre 0 et 2, ce qui est représenté par cet automate-là. C'est-à-dire, je peux faire au plus 2S sans faire un receive. Et puis, bon, vous pouvez avoir un décalage arbitraire, ce qu'on appelle interaction asynchrone, lorsque tout ce que vous exigez, c'est que le send, le nombre de send, soit supérieur à receive. C'est ce qui se passe lorsque vous avez une mémoire non bornée où vous mettez les messages de l'émetteur que le récepteur peut consommer. Et là, donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette fonction-là, dièse, joue le rôle d'une horloge. Okay, parce qu'en informatique, on n'a pas de notion de temps. Vous avez plusieurs notions de temps, vous pouvez définir. Et ici, donc, cette fonction-là joue le rôle d'horloge. Et donc, donner des contraintes entre horloges, c'est synchroniser. Alors, lorsque vous utilisez donc de la colle qui permet le déphasage entre les deux processus, vous introduisez quelque chose qui est terrible dans le système, c'est du non-déterminisme, c'est-à-dire même si l'émetteur et le récepteur est déterministe, vous introduisez une explosion non-déterministe. Non-déterminisme signifiant qu'à partir d'un état, mon système a plusieurs évolutions, et ça c'est un phénomène qui, bon, en physique classique en tout cas, bon, n'existe pas. Voilà, donc pour résumer, bon, il y a différentes sources d'hétérogénéité. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il y a des problèmes ouverts, peut-être il faut que j'avance un peu. Mais disons, ce qui nous manque, c'est des théories pour coller ensemble des composants. Je dois dire deux mots sur le problème de la complexité. Je pense qu'il est bien compris. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, on vérifie les systèmes. A posteriori, on construit un système, on le teste, ou dans les meilleurs des cas, on le vérifie formellement si on peut. Mais ça entraîne des coûts de développement qui sont importants, et de toute façon, nous sommes limités à des systèmes de complexité moyenne, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais vérifier des systèmes complexes. Pour le logiciel, par exemple, ça se situe, je ne sais pas, à des dizaines de millions de lignes de code, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense que il faut, pour vaincre la complexité, il faut diviser, pour régner, il faut utiliser des approches compositionnelles. Alors, c'est une idée qui est très vieille. Si j'ai donc des composants, donc à supposer que j'ai résolu le problème précédent, et j'ai des composants qui satisfont des propriétés, donc qui sont sains, okay, donc garanties correctes, alors si je le colle ensemble, j'ai une méthode, j'ai une règle qui me dit, voilà, en les collant comme ça, tu vas obtenir un composant qui restera sain. Voilà, c'est ça l'idée de la compositionnalité, qui est extrêmement simple, sur laquelle on travaille depuis maintenant très longtemps. Et je suis content parce que dans mon labo, on a maintenant quelques expériences qui permettent de montrer que, en faisant de la compositionnalité, on peut faire bien. Là, c'est ce que je considère faire bien. C'est-à-dire, évidemment, bon, c'est des résultats pour une propriété particulière qui est l'absence de blocage. Mais là, je pense qu'on est en train de vaincre la complexité par compositionnalité et je suis assez content. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Si vous avez des questions, on pourra en discuter. Le dernier défi est le défi le plus important, à mon avis, c'est vaincre l'incertitude. Donc, j'aimerais prendre un peu de temps pour le commenter. Donc, ce qui est clair, c'est que les systèmes que nous avons actuellement doivent garantir un service qui est satisfait des exigences en interagissant avec un environnement qui est incertain et imprévisible. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'environnement de mon système? C'est l'environnement externe. Donc, l'environnement externe, bon, il est complètement imprévisible, il peut se passer plein de choses, on peut avoir des attaques, on peut avoir bon, plein d'événements que les concepteurs n'ont pas forcément prévus. Le deuxième type d'environnement, c'est le matériel, c'est les plateformes d'exécution qui deviennent de plus en plus sophistiquées et qui font qu'on ne peut pas estimer certains paramètres de l'exécution d'un logiciel, je reviendrai là-dessus. Donc, en fait, il y a deux types d'incertitudes dans les systèmes. Ce que j'appelle incertitude intrinsèque, qui est due au non-déterminisme ou à l'abstraction qu'on fait pour cacher certains détails. Et aussi, il y a une autre incertitude qui s'y rajoute, c'est ce que j'appelle incertitude estimée, et qui est due à des approximations qu'on fait juste parce que, à cause, par exemple, de la non-calculabilité ou la non-décidabilité de certaines propriétés. Bon, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais considérons un exemple. Donc, admettons, je suis un ingénieur de Airbus et donc j'ai un logiciel à faire tourner sur un ordinateur. Il est important que pour les instructions de mon logiciel, j'ai des estimations sur les temps d'exécution. Donc, les temps d'exécution, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre tout d'abord, admettons que c'est une fonction que je veux calculer, ça va dépendre des données, mais ça va dépendre surtout de la place des données lors de l'exécution, ce qui est complètement dynamique. Donc, à l'exécution, j'aurai ce qu'on appelle worst case execution time, best case execution time, donc une fourchette qui peut varier de 1 à 300, même pour des exemples très simples. Mais ça, ce n'est pas suffisant. C'est ce qui se passe objectivement. Si je pouvais observer ce qui se passe réellement dans le système. Mais j'ai des outils qui, pour estimer ces paramètres, font des approximations. Rappelez-vous, par exemple, on peut faire de l'interprétation abstraite. C'est typiquement ce qu'ils font de l'interprétation abstraite. Donc, pour pouvoir décider avec assurance, je fais encore des approximations. Et là, donc, ça me donne des bornes qui font que bon, je peux avoir des machines, disons, bon, j'ai des bornes qui sont, qui diffèrent, qui sont très très larges, et disons, si je veux être sûr de bien contrôler, contrôler mon avion, il faut que je tienne compte de ces bornes-là. Ce qui peut faire, par exemple, et ça arrive très souvent, que nous avons des systèmes qui sont surdimensionnés. Actuellement, en ingénierie système, je pense qu'il y a une divergence. Et bon, c'est une divergence qui est un peu inquiétante pour moi. On a des gens qui font des systèmes critiques, et faisant des systèmes critiques, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur une analyse pire cas, et ils allouent statiquement les ressources pour faire face au pire cas. Donc, c'est les approches, par exemple, par redondance massive, c'est les approches aussi qu'on applique pour temps réel dur. Donc, l'objectif étant que quoi qu'il se passe, mon système évite les mauvais états, les états catastrophiques. Par contre, il y a d'autres ingénieurs qui font du best effort, c'est-à-dire, bon, là, il n'y a pas d'état catastrophique, il y a des états d'erreur. Ce qui les intéresse, en fait, c'est que le système reste autour d'un optimum, même au risque de dérapage. Si les dérapages sont contrôlés et limités, c'est acceptable. Donc, vous avez ces deux approches dans l'ingénierie système. Alors, et donc, il y a Donc on sépare les fonctions et bon, ça a des effets parfois un peu imprévisibles. Il y a 3 ans, l'industrie automobile a eu des problèmes, notamment l'industrie automobile allemande. Pourquoi ? Parce que en appliquant ce principe de séparation, vous vous trouvez dans une voiture haut de gamme, par exemple Mercedes, avec 80 Electronic Control Units. Electronic Control Units, c'est un ordinateur, c'est un chip. Voilà. Donc chaque unité, est, donc on séparait notamment le critique et le non critique. Et donc, mais ils ont eu la surprise lorsqu'ils ont cherché à faire marcher ensemble toutes les unités donc fiables. Par ailleurs, la fiabilité du réseau étant inférieure à la fiabilité des unités, ils ont eu de mauvaises surprises. Donc actuellement, on est en train de revoir tout ça et on bouge dans certaines directions. Tout d'abord, donc on accepte de mettre du critique et du non critique sur une puce. Et donc le problème, c'est comment les marier. Il y a des efforts tout d'abord pour rendre le comportement des systèmes plus prédictible en utilisant différentes techniques. Et donc une autre direction qui me paraît plus intéressante, parce que moi je ne pense pas que tout ça, ça puisse donner quelque chose d'intéressant, c'est l'adaptivité dont je voudrais vous parler. C'est-à-dire on met un ensemble global de ressources qui est suffisant pour faire face aux mauvaises situations, quitte, bon, s'il faut plus de ressources, de servir moins les services qui sont best effort. Donc ça reviendrait, pour caricaturer par exemple dans un avion, d'arrêter la vidéo pour secourir, pour faire des calculs pour l'ordinateur de bord. Okay. Et bon, évidemment, pour faire ça, il faut maîtriser bien les technologies. Je pense que l'adaptivité, avoir des systèmes adaptatifs, c'est un problème qui est très important dans l'ingénierie système. C'est une idée qui vient de l'automatique, mais l'adaptivité est utilisée déjà dans les réseaux, dans la recherche de données, trouve plein d'applications. Qu'est-ce que c'est un système adaptatif ? Vous avez un système qui est contrôlé par ce contrôleur, que j'appelle contrôleur adaptatif, qui a en fait 3 étages. Un étage où, donc ici, je résous des contraintes et je me fixe des objectifs à un moment donné. Pour un objectif, j'ai des tactiques pour atteindre cet objectif. Par exemple, je fais de la planification et je choisis un chemin. Et il y a une boucle un peu plus lente qui apprend pour mettre à jour les paramètres donc de ces contraintes-là. Donc ça fonctionne un peu comme le cerveau humain, hein, c'est-à-dire que à un moment vous hésitez, vous dites voilà, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir un match de foot, ou je fais ceci, je fais cela. Vous faites un choix, vous planifiez, vous dites je vais au foot. Et puis bon, ensuite donc après une expérience, vous réévaluez tout ça, vous dites ah, peut-être j'ai tort, donc je vais ajuster mes objectifs, enfin les paramètres de mes objectifs. Alors bon, c'est des techniques qu'on utilise, notamment dans mon labo, pour contrôler la qualité d'encodeurs MPEG, où donc les temps d'exécution dépendent énormément du contenu des images. Donc là, nous avons utilisé des techniques adaptatives. Donc ce que j'obtiens en adaptatif, c'est le vert. Et ce que en rouge, c'est le non adaptatif. Et là, vous voyez par exemple qu'en non adaptatif, j'ai des sauts de frame, des sauts d'image. Je ne vais pas commenter davantage, mais c'est pour dire que c'est des techniques qu'on commence à appliquer. Pour résumer, je pense que l'adaptivité, en fait, c'est faire appel à l'intelligence, hein, pour résoudre tous les problèmes qu'on ne sait pas résoudre autrement dans les systèmes. C'est une vision quand même qui est différente de la vision de l'intelligence artificielle, si vous vous rappelez. La vision de l'intelligence artificielle, c'était d'avoir un ordinateur qui bat Kasparov, je ne sais pas, aux échecs. Ici, c'est un objectif qui me paraît beaucoup plus réaliste et auquel, personnellement, je crois. Voilà, donc j'ai quasiment terminé. Donc, juste pour alimenter la discussion, je dirais que les systèmes embarqués donc introduisent cette rupture par rapport aux techniques habituelles. Et je vais essayer de tenter une comparaison entre l'informatique et la physique classique, juste pour voir les différences, parce que je pense qu'on a énormément à apprendre. Et moi, personnellement, c'est un problème qui me préoccupe actuellement. Donc, on comprend les différences. Hein, c'est deux disciplines fondamentales avec des objets relativement disjoints. Hein. Ici, en physique, on étudie une réalité donnée. En informatique, on étudie des univers créés. Et là, je pense que peut-être même les chercheurs ne sont pas toujours conscients de ce fait. Enfin, on tire pas toutes les conséquences de cette observation-là. La physique donc utilise des modèles analytiques fondés sur les mathématiques continues. Là, c'est les maths discrètes, la logique, équations différentielles, automates, algorithmes. Voilà, tout ça, vous comprenez. La grande différence, je pense, c'est qu'ici, on a la prédictabilité, la constructivité. Là, on marche encore surtout par vérification. Et donc, la question, comment faire des synthèses? Donc, je dirais que dans l'ingénierie donc fondée sur la physique, on a de la chance. On a de la chance tout d'abord parce que les lois physiques sont étonnamment simples. Et ça, c'est Einstein qui l'avait remarqué. Il disait que ce qui est incompréhensible en ce qui concerne le monde, c'est qu'il soit compréhensible. Je trouve que ça résume bien ce miracle-là, qu'on a des lois physiques simples. Et aussi, je pense aussi que on a de bonnes approximations linéaires de la réalité. Pour les systèmes donc informatiques, ils sont intrinsèquement non linéaires. En fait, lorsque je commençais ma thèse de docteur ingénieur avec Jean Kunzmann, je devais travailler sur une théorie généralisée des systèmes. Et quelquun avait démontré qu'il n'y a pas de représentation linéaire d'un élément mémoire. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez les conséquences. Donc, pas de représentation linéaire dans n'importe quel corps hein, de caractéristiques zéro ou fini. Et donc, les systèmes informatiques sont intrinsèquement non robustes, c'est-à-dire si vous changez un bit, tout peut basculer. Donc, c'est une différence importante par rapport à beaucoup de systèmes continus que vous avez ici. Et aussi, donc, l'approche analytique n'est pas tractable, enfin, n'est pas applicable. Voilà. Donc, spécialement si on a des systèmes avec des conflits et des synchronisations, parce que si on élimine un de ces deux phénomènes, peut-être on a des phénomènes, on peut avoir des approches analytiques plus intéressantes. Donc, je veux parler de composition de système. Sur la composition de système, en physique classique, vous avez donc des modèles qui sont déterministes, qui utilisent une base de temps unique, et la composition est un jeu d'enfant, c'est la composition fonctionnelle des fonctions, hein, il n'y a rien à faire. Par contre, pour l'informatique, il n'y a pas de notion de temps explicitement, c'est-à-dire on peut se définir sa notion de temps ou de quantité physique. Bon, la théorie de la complexité introduit une notion de pas de calcul. Donc, ça, c'est on peut mesurer le temps en pas de calcul ou en mémoire, mais disons, on n'a pas la notion de temps et ressources physiques, il faut se le construire. La composition des composants, donc, se ramène à exprimer des contraintes entre différentes bases de temps que chacun se définit. Donc, il y a une variété de types de composition, et c'est ça qui rend la tâche, disons, de construction de système par composant assez difficile. Et aussi, donc, c'est l'incertitude qui est le résultat du non-déterminisme et aussi de notre incapacité à avoir des modèles fidèles, etc. Voilà, donc ça, c'est le dernier transparent pour dire que je crois que pour l'informatique, avoir une discipline vraiment... Donc, bien comprendre et formaliser le concept de la conception, c'est très important. Et c'est très important parce que, je l'ai déjà dit, l'informatique a construit des univers qui sont artificiels, contrairement à la physique. On a un univers donné à étudier. Et je pense que peut-être il faut chercher des univers qui sont plus facile à analyser et à comprendre. Et peut-être au début, c'est-à-dire les systèmes actuels sont construits d'une façon un peu anarchique et c'est le début de la discipline, c'est compréhensible. Donc, moi, je pense que la vérification, c'est pas la seule façon de garantir la correction de système et en absence d'approche analytique réaliste. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est comment construire des systèmes qui sont corrects par construction en étudiant les, ce que j'appelle « tractable universes », c'est-à-dire des sous-classes de systèmes pour lesquels on peut dire des choses. C'est ça qui m'intéresse. Un message aussi pour mes collègues informaticiens. Pour finir, je pense que cette vision aussi peut contribuer à l'unification de la discipline pour actuellement un peu séparé en deux parties. On a les gens qui travaillent côté méthode formelle et vérification et les gens des algorithmes et de la complexité. Je vous remercie pour votre attention.
Joseph Sifekis, directeur de recherche CNRS, s'exprimait sur les nouveaux systèmes scientifiques pour l'informatique en matière de systèmes embarqués. Une communication qui se déroulait lors d'une séance de l'Académie des sciences, c'était en février 2009. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les séances de l'Académie des sciences. Vous les trouverez en cliquant sur « En séance », catégorie « Sciences ». Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.